On s'en va rejoindre au bout du fil Charles Lafortune. Salut Charles, comment vas-tu?
Bonjour Luc, je vais très bien toi-même.
Ça va très bien aussi. Charles, une fondation autiste et majeur, comment c'est né d'abord l'idée de faire une fondation?
Ben, en fait, dans le processus du documentaire de la première saison de Autiste bientôt majeur, ben, on s'est dit que ce serait le fun qu'il reste quelque chose de concret de ça, bien que documentaire, on peut voir, on peut le regarder, mais on se dit que ça serait le fun qu'il y ait une incidence positive par la suite. On a regardé ce qui se faisait un peu partout. Il y a la Fondation Louis Vérot qui font du logement. Fait qu'on voulait pas aller dans cette avenue-là. Mais nous, on s'est dit, bon, puis avec la connaissance qu'on a de ce que vit notre gars, qu'est-ce qui arrive après 21 ans, quand il n'y a pas de service, il n'y a pas d'emploi, ou en tout cas, il y en a peu, où ça devient très compliqué, 95% des autistes ne trouvent pas un emploi. Comment on fait pour qu'ils continuent leur éducation? Comment on fait pour qu'ils ne perdent pas leurs acquis, puis qu'ils puissent intégrer la société, puis que ça soit, qu'il y ait une vie qui est à la hauteur de leurs capacités, de leurs aspirations, qui se retrouvent pas là, à se bercer à la maison juste pour ou encore dans une résidence. Qu'est-ce qu'ils font le matin quand ils se lèvent? Fait que c'est ça l'idée. Fait qu'on a trois pôles, donc des centres de jour, l'éducation puis l'intégration au travail. Fait que c'est là-dessus que la Fondation Autistes et Majeurs va se concentrer. Fait que nous, on va appuyer des initiatives, puis on va les faire à travers le Québec, donc à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, en Outaouais, à Montréal, en Abitibi. On va essayer de rayonner ça étape par étape, puis faire en sorte d'amasser de l'argent pour différents projets d'intégration. Fait que il y a Saint-Hubert là, qui nous a appuyé. La Fondation Saint-Hubert nous a octroyé un don $1 million. Fait que Saint-Hubert, en plus, c'est un joueur qui est vraiment intéressant pour nous parce qu'ils peuvent eux-mêmes faire de l'intégration au travail dans leur restaurant. Ils peuvent eux-mêmes faire de l'intégration au travail dans les usines ou encore dans les centres de distribution, hein, tu sais, la salade de choux qu'on achète, les côtes levées. Fait que donc, tout ça, tout ce qui est en épicerie, ben on peut aussi faire de l'intégration au travail. Fait que c'est ça l'idée derrière la Fondation Autistes et Majeurs.
Quand on part une fondation avec un don d'1 million de Saint-Hubert, est-ce que c'est touchant? Parce que c'est pas évident d'aller chercher des sous de gens partant.
C'est extrêmement touchant. Moi, je suis allé donc à la Fondation Saint-Hubert pour aller pitcher cette idée-là. Puis les franchisés qui sont sur le board de la Fondation, hein, faut pas oublier que ces gens-là, ben c'est aussi des gens qui ont des bannières Saint-Hubert dans leur communauté. Hein. Saint-Hubert, c'est des restaurants de franchise. Fait qu'il fallait convaincre ces gens-là d'embarquer dans ce projet-là. Puis moi, je voudrais être comme Paul Newman. Moi, je voudrais être une vinaigrette. Parce que Paul Newman, à la vinaigrette de Paul Newman, il faut savoir que les gens l'ignorent. Et ça demande toujours pourquoi il y a la face du monsieur. Il y a souvent des gens qui ne savent même pas c'est qui Paul Newman, mais... lui, il a perdu un de ses fils d'une overdose, puis lui, pour l'abus de substance, il avait créé une fondation, puis il a créé une vinaigrette, puis en fait, il a donné un énorme succès. Ouais. La vinaigrette Paul Newman, on dit que la vinaigrette, en fait plus d'argent que Paul Newman a fait dans toute sa carrière. fait que c'est ça, donc moi, je me dis, si je peux être une source à côte levée, moi,
As-tu senti en tournant le documentaire qu'il y a des entreprises qui veulent engager des autistes mais qui ne savent juste pas par où commencer?
Oui, on a senti les gens. En tout cas, je pense qu'on va faire boule de neige. Il y a déjà des initiatives comme celle-là. Je pense à Louis-François Marcotte, Cheval, qui est à Saint-Hilaire, donc qui est un restaurant où il y a une intégration au travail qui est là. Patricia Parquet, la conjointe de Louis-François, et la maman de Benjamin, qui est dans le documentaire. Fait que ça, je pense que les gens vont là, puis achètent des plats, puis c'est pendant la pandémie, il a fait beaucoup de take-out, bien sûr. Des plats cuisinés, puis c'est vraiment très bon. Donc ça, cette initiative-là, je la trouvais vraiment, vraiment intéressante. Puis c'est un modèle là, que Saint-Hubert pourrait faire à grande échelle.
As-tu senti que le documentaire a changé le regard des gens ou la réflexion des gens sur le titre?
Ah ouais. Vraiment. Les gens, il m'aborde, me parle de mon fils, me parle du documentaire. T'sais, dans le documentaire, on voulait présenter le spectre de l'autisme, que ce soit de Malika ou de Matisse qui sont non-verbaux à Raphaël qui travaille en jeu vidéo. Donc, le spectre est très large. C'est, c'est, c'est ça qu'on voulait aussi, que les gens puissent comprendre. Puis que, ben, tu sais, c'est pas contagieux, hein, contrairement à d'autres affaires qu'on vit présentement. Donc, de les intégrer, de leur parler, de pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Moi, des fois, les gens, au début, je te dirais, avant le documentaire, parfois, ça arrivait que les gens, ils parlaient de Matisse, mais ils étaient présents dans la pièce, puis ils ne s'adressaient pas à lui. Puis j'ai remarqué qu'après le documentaire, les gens, ils s'adressent à lui. Puis je leur dis, ben, attendez-vous pas nécessairement avoir une réponse, mais ce geste-là, il est précieux. Ouais. Parce que, à la limite, Matisse, quand je lui dis, ramasse son linge, je le mets dans la vache, ben, il le fait, tu sais. Fait que, étant donné qu'il est non-verbal, ben, c'est difficile de voir c'est quoi son niveau de compréhension. Fait que, dans le doute, on lui dit bonjour, on s'adresse à lui, puis les gens le font. Puis ça, je trouve ça très touchant.
C'est un enfant sur 68 au Québec qui est touché par le trouble du spectre de l'autisme. Donc, il en faut des fondations comme ça, parce que le besoin est là, là, il est criant même.
Le besoin est immense, hein? L'autisme touche plus d'enfants que la sclérose en plaques, le cancer, la cécité, la spina bifida réunis.
OK.
Fait que c'est énorme, hein? Je pense que c'est les auditeurs qui nous écoutent. Probablement que vous êtes toujours à 2 degrés de connaître quelqu'un qui a un enfant autiste, hein? C'est très... beaucoup, tu sais, hein, sur 68, là, c'est énorme, hein, on pense à une polyvalente de 1000 personnes, là, ça en fait du monde, déjà. Fait que oui, il faut s'en occuper, parce que, puis là, je vais faire un discours purement comptable, mais quand plus qu'on s'en occupe jeune, plus qu'on intègre, puis on place des structures, moins que ça va coûter cher à l'État. Parce que c'est sûr qu'un CHSLD, c'est pas la place pour mettre un autiste non-verbal de 40 ans. Tu sais, les gens, ils ont étudié en gériatrie, ils n'ont pas étudié en autiste. T'sais. Fait qu'il y a cette pensée-là, la CAQ veut carrément s'occuper de ça de façon distincte. Il y avait un plan d'investissement. Là, ça, c'était avant la pandémie, là, avec tout ce qu'on sait. Là. On espère qu'il va rester quand même... Des plans, de l'argent pour pouvoir payer ces initiatives-là. Mais moi, je trouvais que Sophie et moi, on voulait pas rester assis sur nos mains. Fait qu'on voulait être proactif là-dedans. Puis quand j'ai tendu la main, mon ami Mario Dumont, c'est le conseil d'administration, Marie-Claude Barrette aussi. On a la développementaliste en chef de Sainte-Justine, un des associés de KPMG, un avocat en propriété intellectuelle, quelqu'un qui est dans les relations publiques. Donc, tu sais, on a voulu bâtir vraiment une fondation qui soit naturellement la Fondation Saint-Hubert. Ils sont là. On va aussi annoncer dans le secteur bancaire aussi, il y a quelqu'un qui a une banque. Des services financiers qui vont se joindre à nous, puis aussi une autre grande corporation qui va vouloir se joindre à nous. Fait que tu sais, on n'arrêtera pas. Moi, je trouve que ça donne un sens à ce qu'on a fait comme documentaire.
Rapidement, on apprend, quand on est parent d'un enfant qui a le trouble du spectre de l'autisme, qu'il y a des services qui vont disparaître au fil des années. Je pense entre autres à tout le suivi qu'il y a à Sainte-Justine qui arrête à 18 ans. Donc, il faut trouver des spécialistes de plein de niveaux, des dentistes, plein de spécialistes qui sont formés pour aider ces enfants-là. À quel moment on devient inquiet de la suite des choses? Est-ce que déjà très jeune, on comprend qu'à cet âge-là, ça va être terminé?
Bien, comme tous les parents, on pèle par en avant.
Oui.
Puis là, quand tu arrives à 15 ans, tu fais comme « Oh, OK, il reste 3 ans. » Fait que tu commences à... Là, tu veux chercher un médecin de famille. Tu sais, moi, mon gars, pour y nettoyer les dents, là, il faut qu'il soit sous anesthésie. Là.
Ouais.
Fait qu'on s'entend-tu que le brossage de dents chez nous, c'est précieux et intense, là, parce que justement, on peut pas aller, comme nous, 2 fois par année, là, se faire nettoyer les dents. Donc, ou 3 fois. Mais donc, Matisse, lui, il faut tout recommencer ça. Quand on arrive à 18 ans, ben là, on part avec notre petit bâton de pèlerin. Il faut trouver un médecin, puis il faut trouver une ergothérapie. Matisse, il avait des crampes à l'estomac, puis nous autres, ça a pris du temps à le savoir. Puis on est allé dans la dernière année de ses 18 ans, et puis encore aller à Sainte-Justine obtenir une dérogation, mais c'est vraiment la dernière année. Fait qu'on a pu aller là. Mais c'est extrêmement compliqué de repartir ça. T'sais. Puis Sainte-Justine, puis le Children, puis le CHU à Québec aussi, ont des départements, il y a des spécialistes qui sont habitués de vivre avec cette clientèle-là. Alors que dans le milieu hospitalier, ben c'est moins évident. Toujours, je suis pas démagogue, ce que je veux dire là, mais quand tu dois 300 places à l'impôt, ils te trouvent. Mais amener ton dossier de Sainte-Justine à un milieu médical pour adultes, c'est pas mal plus compliqué.
C'est quoi ton souhait pour Mathis qui a un travail? Est-ce que tu aimerais ça?
Ben moi, mon souhait le plus banal, c'est qu'il soit heureux.
Oui, oui, tout à fait. Ben ouais.
Et puis, moi, ça soit qu'il y a un travail, peut-être qu'il ne sera pas rémunéré, Mathis, dans la vie, mais au moins qu'il y ait un endroit où il sent qui fait une différence. Je ne sais même pas s'il la comprend, mais où il est inclus, où il y a des amis, où il y a du monde qui vont lui dire bonjour Mathis le matin. C'est quand même quelque chose d'extrêmement extrêmement simple ce que je veux pour lui. T'sais. Moi, c'est sûr que financièrement, on travaille fort pour faire en sorte que Mathis n'ait pas à se soucier de rien. Là, mais donc c'est ça. Donc c'est plus ça que les parents veulent. Bien sûr. Un autiste qui s'intègre complètement, qui travaille, qui a son appartement, c'est extraordinaire, là, c'est vraiment, puis, tu sais, je baisse pas les attentes avec mon fils, mais, écoute, il a 18 ans, puis, il fait encore de l'écolalie, là, pas de l'angélisme non plus, mais oui, pour lui, spécifiquement pour lui, c'est ça que je voudrais dire, ouais, quand il fait des trucs, il faisait du bénévolat à Moisson Montréal, puis, il était très, gros sourire, puis, c'est pour lui coller les étiquettes pendant une heure sur des cannes. Il trouvait ça super. Je le voyais, là. Gros sourire, il y avait du fun. T'sais. Même que quatre jours après, il fallait que j'envoie des timbres, les lettres avec des timbres, ce qu'on fait quasiment plus jamais, ça. Et là, il fallait que je le fasse. Puis je l'ai vu regarder mon rouleau de timbres, j'ai fait « Wow, attention! » Il prend tout ça, puis il colle ça partout. J'ai saisi les timbres.
Est-ce qu'il y aura une troisième saison pour le documentaire?
On est en réflexion là-dessus. On va voir si on a encore des choses à dire. On est en réflexion là-dessus. On va voir si pour l'instant on est à ce stade-là.
Charles, je veux te parler de la fin de La Voix, la finale remportée par Josiane Comeau. Évidemment, toi qui as animé toutes les saisons de La Voix, généralement, il y a les célébrations après la victoire. Comment tu l'as vécu, ta finale de La Voix, cette année?
Ouais, extrêmement bizarre, tu sais. Surtout que La Voix. On allait ensuite faire une pause avec le retour de Star Academy. Donc, de terminer cette période-là de La Voix avec plus personne, ne pas pouvoir prendre la gagnante dans nos bras, ne pas pouvoir célébrer ça, lui toucher, avoir une accolade, c'était vraiment très étrange. T'sais, normalement, on finit ça. Là, tout le monde, on invite tout le monde à La Voix, tous les participants sont là. Chaque année, on fait une grosse fête, puis... La fête, c'était des confettis, puis on roulait en playback, nous autres, des applaudissements très forts, parce que on avait quelque chose de jeu vidéo là-dedans. Mais en même temps, j'étais très content pour Josiane, qui est vraiment une artiste qui a évolué dans ce concours-là de façon assez spectaculaire. Tu sais, il y a des artistes comme ça qui arrivent à un certain âge où... c'est exponentiel leur évolution. Puis avec Béatrice, on le voyait, tu sais, qu'elle bougeait. Puis en plus, le fait qu'on ait arrêté pendant la pandémie, mais elle, c'est celle qui a le plus changé. Tu sais, avec Catherine Sans Regret aussi. Catherine qui littéralement a grandi, elle, pendant qu'on a arrêté. Elle avait 15 ans. Que j'ai dit, oh, t'as-tu grandi? Ben oui, je trouvais ça vraiment drôle. Mais oui, Josiane, elle s'est vraiment, vraiment, vraiment améliorée. Tu sais, je sais pas, je l'ai dit en ondes, mais c'est que je l'ai dit. Tu sais, c'était une chanteuse, une jeune fille, avec un beau vibrato, puis qui mettait son vibrato partout. Puis à la fin de La Voix, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de goût, tu sais, qui faisait du vibrato, qui avait des notes tenues, qui chuchotait qui interprétait, tu sais, qui n'était pas juste sur son talent. T'sais. Parce que des fois, dans cette aventure-là, les candidats s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de monde qui ont du talent aussi là-dedans. Fait qu'après ça, à talent égal, c'est qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce qu'à travers moi, les gens vont entendre pour que je puisse raconter leur propre histoire. C'est pas pour rien qu'on dit « Hey, c'est ma toune! » Dans le fond, on dit tout le temps. T'sais. Quand vous racontez vos affaires, vous vous donnez, mais les gens, eux autres, ils vous entendent, puis je sais que c'est une vérité de la palisse, mais ils reçoivent ça, puis c'est leurs propres histoires qu'ils mettent à travers leur chanson. Et après, on met la musique fort dans le char, là, on se promène, on a un cinéma intérieur, pas nécessairement celui du chanteur qu'on a, nôtre. Fait que c'est ça, à un moment donné, d'apprendre à... En se donnant, on pense que c'est impudique, mais en fait, en se donnant, on donne l'espace à l'auditeur pour se raconter sa propre histoire à travers le talent de quelqu'un d'autre. Ça, elle a vraiment bien compris.
Pour toi, il y a Bijoux de famille depuis quelques semaines qui arrive à un bon moment, j'ai l'impression, alors qu'on voit pas ou très peu, puis de loin, nos propres familles. Il y a une émotion sur ce plateau-là qui est assez intense. Ça a été comment pour toi?
Bien, tu sais, on voulait faire un show de variété où il y avait un mélange d'amour pour la famille, puis de bienveillance, puis il y avait un petit peu de nostalgie, bien sûr, parce qu'on a tourné ça cet été pendant la pandémie, à laquelle on est encore. On l'a brainstormé pendant le confinement. On a poussé à faire tous les numéros, mais c'était en Zoom. On répétait. On avait une salle là, où il y avait trois personnes, puis ils venaient répéter, puis tout ça était très, très sanitaire, mettons. Moi, j'ai fait quelques années les bars en ouvert. J'ai pu aller répéter mes stand-up d'ouverture au bordel, à Montréal, c'est à Ontario. Je les remercie d'ailleurs. Puis c'était l'idée aussi de... Puis il y a toutes sortes de choses d'arrêter comme ça. Les étoiles de la danse, il y a eu l'heure de gloire en chanson. Puis moi, je trouvais le fun d'aller faire un show de stand-up. Puis d'avoir toujours, oui, des humoristes, mais aussi... des gens qui étaient soit des acteurs qui avaient joué avec une improvisation, des acteurs comiques, puis qu'eux autres sont aussi capables d'avoir ce timing-là.
Ouais.
J'attendais toujours, je me disais, ah oui, genre qu'un humoriste me dit, ouais, mais c'est pas des humoristes, eux autres. Puis je me dis, ouais, ben, on se souvient là, du débat, les humoristes qui prennent des acteurs. Ouais, ouais. Bon, c'est ça, c'est le retour du balance.
Es-tu surpris des numéros du monde? C'est parce qu'il y a des gens qui font pas ça dans la vie. Là. Je pense à Dave Morissette, par exemple, qui fait pas ça de la scène dans la vie.
Là. Mais en même temps, Dave, on voulait quelque chose. Les numéros, ils devaient être très près d'eux. Puis ils devaient parler de quelque chose de personnel. Fait que, quand on brainstormait, quand les auteurs brainstormaient, c'était toujours autour de leur histoire. C'est jamais les auteurs qui font pas les numéros, c'est la famille. Il n'y avait pas rapport avec la vie de Dave. C'est Dave qui racontait sa relation avec son père. Il allait faire Compostelle avec lui. Puis, il fait tout un numéro, Dave, sur la lenteur de son père. Là, il trouve que son père est lent. Il donne plein d'exemples. Là, puis en fait, tu comprends dans son monologue qu'en fait, ce qui lui tape ses nerfs, ça lui tape ses nerfs parce qu'en fait, il a peur du jour où il va perdre son père.
Ouais.
Fait que ça devient un monologue qui, à la fin, est très touchante. Fait que chaque personne était ça. Gino Chouinard, la semaine passée, c'était sur ses rénovations. Puis quand ils ont fait le zoom avec lui, il était dans ses rénovations. C'était l'enfer. Il s'est assis avant le brainstorm. Puis là, il leur a raconté ce qui s'était passé juste avant le brainstorming en zoom. Puis il a compté tout ça. Puis là, la pépine qui a arraché le fil électrique. Puis en arrière, en creusant. Puis là, tu sais, l'enfer. Là, la cuisine qui est strippée au complet. Là, il n'y a plus d'ouvriers à cause de la pandémie. Les autres, ils mangent des toasts. Puis, tu sais, il raconte tout ça. Il dit, bon, on brainstorm. C'est quoi les sujets, par exemple, qu'on a?
Ça va être ça.
Ils sont hyper tarés. Mais on l'a, là, ton monologue.
Il est déjà écrit.
Mon Gino. Fait que, tu sais, c'est l'exemple le plus probant, au sens qu'on voulait toujours que ça soit vrai, que ça soit lié à quelque chose de... qu'ils avaient vécu. C'est ça. Fait que ça. C'est comme si à travers l'humour, on pouvait se révéler. Puis là, sinon, je pense que les histoires de famille, on vit toutes des histoires, mille et une familles, de belles familles, d'enfants, de quand on était enfant par rapport aux adultes ce soir. Dans les dernières semaines, on a vu Mario Tessier qui nous parlait des parties de famille d'antan. Puis, les parties de famille dans les années 70. Où ceux qui fumaient pas allaient dehors pour respirer. Tu sais, c'est le contraire. Donc, il y avait la table des enfants. Il nous a raconté qu'il y avait la table des enfants, la table des adultes. La table des adultes, ils mangeaient du steak. À la table des enfants, c'était du steak à fondue chinoise. Tu sais, qui était quasiment bouilli puis caoutchouteux. On a tous vécu des trucs semblables. Ouais. Fait que, c'est ça. C'était basé sur l'authenticité. Puis le téléspectateur puisse se retrouver là-dedans. On a tourné ça l'été, dehors, à la terrasse de Saint-Sulpice. C'est vraiment un beau lieu. Je pense que tout le monde aussi trouve la facture visuelle bien belle là, du show. Puis moi, ça me permettait d'animer des discussions. T'sais. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire.
Charles, si les gens veulent donner à la Fondation, on fait comment? On va sur le web?
On va tout simplement sur Fondation Autiste et Majeur avec ET. Alors, autiste et majeur en un mot. Et puis, vous allez tomber directement sur la page. C'est très, très, très simple. Faire un don, vous cliquez. Et puis, vous allez recevoir tout de suite votre suite charité pour un don de 25 $ et plus.
On peut aussi te commander un salut.
Oui, j'ai fait ça, oui. On peut me commander un salut. Donc, sur l'application Salut, vous allez, en fait, sur le site web Salut, vous allez vous m'envoyer une demande. Puis pour 50 $ ben, je vais faire un beau salut, un beau vidéo à votre mère, à votre tante, à votre... Je suis très populaire, moi, avec le 60 ans et plus. Okay. J'ai beaucoup de demandes. Et naturellement, c'est pas pour moi. Là, je prends pas un sou là-dessus. Tout l'argent va être remis à la Fondation Autiste et Majeur. Fait que vous allez me voir le toupet tout croche, puis vous allez dire, « Hey, coudonc, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui font du mac. » C'est quoi faire hein, quand tu fais de la TV? Quand c'est moi le matin, c'est un peu différent.
Est-ce que c'est flatteur d'être...
Il y a plein de gens qui m'écrivent des fois. Ils me disent, « Mon Dieu, t'as l'air fatigué. » Je suis comme, « Non, j'ai 51 ans, mais je suis pas maquillé.
» Est-ce que c'est flatteur d'avoir un succès chez les 60 ans et plus?
Ben oui, c'est très flatteur. Moi, écoute, c'est super flatteur. À date, c'est ça. Je sais pas, là, c'est comme, je fais un appel à tous. Là, si vous avez aimé Watatata puis vous avez 40 ans, vous pouvez m'écrire aussi.
Et sinon, les projets, ça ressemble à quoi?
Ça, on est en plein tournage de Alerte.
Oui.
La suite d'Alerte Amber. Ma blonde est en train de tourner ça. Donc, on est là-dessus. Il va y avoir Contre-offre sur nous.
Oui.
Une comédie sur fond d'agence immobilière. C'est ce qui se passe aux des affaires quand on vend nos maisons. Lady McSween qui continue. Puis sinon, ben au suivant... Bijoux de famille, on fait aussi des documentaires là, qu'on va lancer le Code Québec animé par M. Gilles, par Desvoilettes, basé sur le livre de Jean-Marc Léger là, sur tout ce que le Québec représente. Bouchard avait fait les 26 des Québécois.
Oui.
Il utilisait beaucoup en publicité. Puis il a revisité ça. Fait que c'est un livre super intéressant à lire, le Code Québec. Je vous recommande, ça vous tente de. Et en affaire, ça se lit comme un roman. Puis tu vois vraiment comment le Québec est bâti. T'sais. La région de Québec, c'est une autre affaire. Trois-Rivières, c'est une autre affaire. La Beauce, c'est une autre affaire. Puis ça parle de, les intentions de vote, le rapport à l'argent, le rapport à la religion, le rapport à l'éducation. C'est bien. Puis les générations, t'sais, les X, les Y. Donc, il y a bien des trucs bien le fun. Fait qu'on visite, on prend le Code Québec, puis on va en faire un show où on essaie d'avoir, tu sais, les femmes sont-elles germaines au Québec? On répond à cette question.
OK.
En faisant des entrevues sur d'affaires, des tests, sur d'autres.
Ben Charles, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Hey, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Passe une belle journée.
Porte-toi bien.
Bye bye.